Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Canal M, les voies de service. Mon introduction de la journée est toute trouvée car si on m'a donné une bonne information, c'est aujourd'hui la journée internationale de la radio. C'est donc de circonstance puisque vous êtes à la radio et je ne suis pas seul dans le studio, je suis en compagnie de Yolène Torres. Bonjour Yolène. Comment allez-vous ?
Bonjour Louis, très bien, par ce beau temps et ce grand soleil.
Une belle journée ensoleillée, effectivement, et nous allons essayer d'ensoleiller aussi le poste de radio avec nos sujets. Quels sont les vôtres ?
Alors, aujourd'hui, pas mal de petites infos, toujours sur mes thèmes, hein, que sont l'alimentation, la mode. Alors, nous parlerons de l'histoire de l'absinthe, ici, au Québec, puis nous parlerons architecture, plus particulièrement de la place des femmes dans ce domaine. Mode également, avec un événement phare qui se passe en ce moment à Las Vegas, où Montréal est représenté et compte bien tirer son épingle du jeu.
Pour ma part, nous aurons des sujets insolites et étonnants, comme d'habitude. Si vous êtes plombier, pâtissier ou mécanicien, écoutez, j'ai une offre d'emploi pour vous, une offre d'emploi insolite. Nous parlerons également d'un crapaud, pourquoi pas, ou comment s'en échapper, vous verrez. Les fourmis également, peut-être source future de médicaments, c'est dans l'actualité également. A tout de suite.
Alors, longtemps interdite, auréolée de mystère, l'absinthe effectue un retour remarqué dans nos verres. C'est un article paru dans Le Devoir du 6 janvier 2018, écrit par Catherine Ferland. Alors, le démarrage d'absinthe en sol québécois ravive d'autant plus l'intérêt pour cet alcool aux notes herbacées. Or, on sait peu de choses sur la trajectoire de l'absinthe au Québec. Alors, c'est à la fois une plante vivace, Artemisia absinthium ou grande armoise, et la boisson distillée qu'on en tire, c'est la macération en fait des feuilles séchées dans de l'alcool neutre avec d'autres plantes qui lui confèrent sa couleur verte. Alors originaire du vieux continent, la plante s'est très bien adaptée chez nous. Non seulement elle s'y cultive facilement en zone 4, mais elle croît à l'état sauvage dans plusieurs champs et pâturages de l'est de la province. On la reconnaît à son feuillage blanchâtre et à son arôme caractéristique. Les premières mentions d'absinthe ici remontent à la naissance de la Nouvelle-France. En 1609, Marc Lescarbot, compagnon de Champlain, écrit que le breuvage d'absinthe prévient le scorbut. Vermifuge et astringente, la plante est cultivée comme herbe médicinale. Son amertume est recherchée par Marie de l'Incarnation, qui en mastique des feuilles et en mêle à ses repas afin de se dégoûter des nourritures terrestres. Qui sait si cette curieuse habitude n'a pas contribué à ses célèbres visions mystiques ? Alors l'absinthe jouit d'une réputation spéciale. En 1825, Louis-Joseph Papineau recommande à sa femme de l'appliquer en emplâtre sur l'abdomen de leurs enfants pour éliminer les vers. Quelques années plus tard, un comité d'hygiène publique conseille une macération d'absinthe dans l'eau de vie pour lutter contre le choléra. En 1848-49, plusieurs pharmacies importent de l'absinthe de Southton à vocation médicinale. Alors les choses évoluent au milieu du 19e siècle alors qu'on boit davantage pour le plaisir. L'absinthe voisinera désormais le champagne, le vin hongrois et le porto dans les réserves des marchands et dans les verres de cristal taillés des hédonistes québécois, ce qui n'empêche pas l'absinthe allemande du docteur Hofland d'être encore très recherchée pour soulager la jaunisse, les faiblesses nerveuses et les douleurs diverses. L'absinthe a marqué les esprits par son étroite liaison avec la sphère artistique européenne. Après tout, certains prétendent que l'ivresse libère la créativité. Mais si Verlaine, Toulouse-Lautrec, Modigliani ou Manet s'absintent généreusement dans les estaminets de Montmartre, nos propres peintres et poètes maudits courtisent aussi la fée verte à la fin du 19e siècle. Alors ayant ses entrées au café Ayotte, rue Sainte-Catherine-Est, le club des six éponges apprécie fort la bière, le cognac et l'absinthe. Ses membres se targuent de ne jamais boire d'eau. Mais de quel type d'absinthe s'agit-il ? Dans les années 1890, le Québec en importe surtout de Suisse, mais aussi de France. Les autorités canadiennes notent d'ailleurs que dans la mesure où le phylloxéra a détruit des vignobles entiers, faisant exploser le prix du vin, l'absinthe est plus populaire que jamais ici comme en France. Alors dans la foulée des mouvements prohibitionniste du début du XXe siècle, pour qui l'absinthe est responsable de tous les maux, donc de la criminalité, de la tuberculose. La Suisse en interdit la production en 1910 et la France suit en 1915. Sa brusque disparition des marchés européens signale aussi sa fin dans les débits d'alcool québécois. Sans être formellement interdit par les instances provinciales ou fédérales, cet apéritif ne sera tout simplement plus offert au Québec pendant des décennies, jusqu'au début du XXIe siècle. Actuellement, le Canada limite le taux de thuyone. Thuyone, c'est un composant de l'absinthe, à 1 mg par litre d'absinthe, mais on parle de rehausser ce seuil afin de s'harmoniser avec la production contemporaine, avec le démarrage de plusieurs absinthes locales, locales et la facilité de cultiver la grande armoise en sol québécois, gageant que la fée verte n'a pas dit son dernier mot.
Intéressant et spirituel comme article à consommer avec modération.
Exactement.
Bien sûr. Et d'absinthe, peut-être en aurez-vous besoin si jamais vous partez sur la banquise pour certaines soirées un peu longues. Et c'est ce que propose cet article si vous êtes en recherche d'aventure ou même simplement d'emploi. Écoutez bien. En quête du grand frisson, l'Institut Polaire français, tout un nom, a lancé une campagne de recrutement sur Internet pour trouver des volontaires parlant le français, prêts à vivre pendant un an une expérience unique. Biologistes, vétérinaires, mais aussi mécaniciens, plombiers et même pâtissiers. Basé près de Brest, en Bretagne, l'Institut Polaire Paul-Émile Victor est chargé de financer et de mettre en œuvre les programmes de recherche français dans les régions polaires, en collaboration avec des laboratoires internationaux. Avis aux amateurs de l'extrême, une quarantaine de personnes sont invitées à rejoindre l'une des 6 bases scientifiques situées dans l'Arctique, l'Antarctique et les îles subantarctiques. Chaque année, nous recrutons du personnel pour relever celui en place, explique à l'AFP Laurence-André Lemarec, responsable du recrutement. Sur les 40 postes offerts, 30 sont réservés à des volontaires de service civique, nourris et logés, dont la rémunération est de 1 024 € net par mois, environ 1 500 $ canadiens. Bardeurs, magasiniers, menuisiers, plombiers, mécaniciens, électroniciens, logisticiens, biologistes, chimistes, mais aussi scaphandriers, vétérinaires, boulangers ou encore pâtissiers, la palette des métiers concernés est vaste et parfois l'Institut peine à attirer les candidats qu'il lui faut. On reçoit beaucoup de profils de biologistes, mais pas assez de mécaniciens ou d'outilleurs, car ces derniers ne nous connaissent pas, regrette Madame André Lemarec. Au-delà des compétences requises, tout le monde n'est pas en mesure de vivre pendant un an, voire 14 mois, loin de tout, en groupe et malgré le climat. Il faut être passionné par son métier, mais aussi en bonne santé, souligne la responsable du recrutement. Les candidats à l'aventure passent une visite médicale d'aptitude qui inclut des tests psychologiques. On vérifie qu'ils sont aptes physiquement à faire ce type de mission et psychologiquement, qu'ils sont aptes à vivre sur un site isolé en collectivité et dans des conditions parfois extrêmes. Le prochain mécanicien qui partira travailler sur la base Concordia au cœur du continent antarctique, au sein d'une équipe franco-italienne de 14 personnes en hiver, de mi-février à octobre, et une 60aine en été, devra ainsi supporter des températures pouvant atteindre les moins 80 degrés Celsius. Pas de retour possible en cours d'hivernage, prévient d'emblée la fiche de poste disponible sur le site de l'Institut. Concordia est l'une des 3 bases permanentes situées à l'intérieur des 14 millions de kilomètres carrés du continent antarctique, l'une des régions les plus isolées et inhospitalières de la planète. Toutes les bases ne sont pas sur ce niveau de température, s'empresse de souligner Laurence-André Lemarec. Le biologiste qui sera recruté sur l'île d'Amsterdam, à la limite des océans Indien et Austral, pourra travailler en t-shirt, assure-t-elle. C'était génial, se souvient Claire Le Calvez, ancienne hivernante sur la base de Dumont-d'Urville en 2003, en tant que chimiste glaciologue, puis en 2005 lors du premier hivernage à Concordia en tant que responsable technique. Au niveau découverte du milieu naturel, c'est génial, ce sont des souvenirs dont on garde la trace toute sa vie, explique-t-elle. Ça change complètement la façon de voir les choses, de se retrouver au pied d'icebergs qui font 40 mètres de haut. C'est exceptionnel, poursuit cette chimiste, embauchée par l'IPEV, qui compte une cinquantaine de permanents à la suite de son séjour sur la base du Mont d'Urville. Celle-ci est connue pour son blizzard, ses longues nuits polaires et ses vents pouvant dépasser les 300 km/h. Mais les femmes restent peu nombreuses sur les bases de l'Institut polaire. D'ailleurs, jusqu'en 2000, l'hivernage leur était interdit. Actuellement, il n'y a que 6 femmes pour 24 hommes. Je n'arrive pas à voir la parité, regrette Laurence-André Lemarec. Pour inciter davantage de femmes à se porter candidates, l'Institut polaire a, pour la première fois cette année, produit 6 vidéos dans lesquelles 6 anciennes hivernantes témoignent de leurs expériences. Voilà, avis aux amateurs. Je ne sais pas s'il y a autant de soleil qu'il y en a aujourd'hui à Montréal, mais ma foi, c'est une expérience, pourquoi pas.
Tu dis que t'aimerais mourir, mais regarde-toi. Tu dis que t'aimerais mourir. Plus grand rêve, la vie t'aime, la vie t'aime. T'es un beau comme le plus grand rêve, la vie t'aime, la vie t'aime. Tu dis que t'aimerais courir.
On vient d'entendre La Bronze avec Un balai de forêt.
On continue avec le thème des femmes architectes au Québec. Un article du Devoir paru le 27 janvier 2018 et écrit par Andréane Chevalier. Longtemps une minorité dans la profession, les femmes architectes sont de plus en plus nombreuses au Québec, représentant 39% des membres de leur ordre professionnel en 2017, comparativement à 25% 10 ans plus tôt et à 20% il y a 20 ans. incursion dans l'univers de trois femmes de générations différentes actives dans le métier. Commençons avec Josette Michaud. Quand j'allais chercher un emploi au début, je n'étais jamais la personne qu'on attendait, reconnaît-elle, de la firme Beaupré Michaud et Associés, architecte, dont les bureaux de l'édifice Cooper sur le boulevard Saint-Laurent offrent une vue sans égale sur le Mont-Royal. Avec elle, seulement cinq autres femmes se trouvaient sur les bancs de l'école d'architecture au cours de sa première année d'études en 1966, sur 66 étudiants. Bien qu'elle souligne que ses collègues et professeurs l'ont toujours bien accueillie, la femme de 73 ans, devenue membre de l'Ordre des architectes du Québec en 1974 et sa première femme présidente en 1992, évoque la résistance du milieu du travail de l'époque. Les représentants des compagnies de matériaux refusaient de lui parler et les employeurs ne voulaient pas, dans ce temps-là, s'encombrer de quelqu'un qui risquait d'être à la maison à prendre soin des enfants quand ils étaient malades. Dans le milieu, dit-elle, on savait qu'elle avait deux enfants, impossible de trouver un poste. C'est ce constat, après un troisième enfant, qui l'a amenée à ouvrir son propre bureau avec son conjoint, Pierre Beaupré, en 1982. Était-ce essentiel pour une femme d'être associée à un homme pour ouvrir sa firme il y a 36 ans? Eh bien oui, lance-t-elle. La difficulté de réussir, ce n'est pas tant de savoir quoi faire, c'est de convaincre un client de nous confier quelque chose à nous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Je n'aurais peut-être pas trouvé. Nathalie Dion, à présent, s'exprime sur le sujet. Ce qui m'apparaît, c'est que le métier d'architecte n'est pas perçu comme un métier d'homme, lance la présidente de l'OAQ, dont le conseil d'administration est actuellement à un membre d'atteindre la parité. La femme de 52 ans, qui s'est jointe à la firme Provencher Roy en novembre dernier, affirme ne s'être jamais sentie en combat comme femme depuis ses débuts dans le milieu, au tournant des années 90. À part sur les chantiers où elle se rappelle avoir entendu quelques jokes sexistes, elle a toujours été entourée de femmes. Elle témoigne d'un grand souci de plusieurs bureaux aujourd'hui à accorder des conditions de travail et la souplesse nécessaire à la conciliation travail-famille. Cela dit, elle aimerait avoir plus de femmes à la tête de firmes d'architecture. À mon bureau, quand j'ai commencé, on était juste des filles, mais les patrons étaient des gars. Selon les rapports annuels de l'OAQ, le pourcentage de femmes patrons s'élevait à 25% en 2017, en augmentation par rapport à 22% en 2007 et à 14% en 1997. Madame Dion souligne par ailleurs le peu de modèles féminins parmi les stars de l'architecture. Le prestigieux prix international Pritzker, qui récompense l'ensemble de l'œuvre d'un architecte, n'a été remis qu'à deux femmes depuis sa création, en 1979, Zaha Hadid en 2004 et Kazuyo Sejima en 2010. Mais les femmes d'ici ne manquent pas de modèles, croit la présidente de l'OAQ. Il y a des femmes impressionnantes dans notre milieu. Gilles Hardy, maintenant, la troisième femme de cet article, prend la parole. Les gens de ma génération évoluent dans des milieux favorables à l'équité. Pour eux, ça va de soi, affirme-t-elle. La jeune femme de 27 ans a fondé sa firme NOS, ou NOS, avec Charles Laurence Proux en 2016. Il n'y a plus de stigmates sur quel genre de filles et quel genre de garçons sont dans la profession, il y a de tout. Elle reconnaît que les femmes sont plus rares dans les postes d'autorité dans les grands bureaux. On peut s'imaginer le plafond de verre, mais son expérience dans le milieu est positive, même dans ses liens avec le milieu de la construction. En réunion de coordination, je suis la seule fille en bas de 30 ans. Les gens ont un sens de l'écoute incroyable, c'est encourageant. D'après elle, son âge et le fait qu'elle ait déjà démarré son entreprise suscitent davantage de réactions que le fait qu'elle soit une femme. Je ne vis pas les nombreuses difficultés que les femmes avant moi ont pu vivre, mais je pense qu'il ne faut pas penser que c'est acquis. Pour Gilles Hardy, un des défis actuels du milieu est de s'ouvrir à la différence. Pour moi, l'acceptation des femmes dans le milieu du travail, en architecture ou ailleurs, c'est d'accepter la différence. Dans ce mouvement-là, il faut apprendre à être tolérant envers tous. On crée des milieux de vie. La clé, c'est qu'on soit ouvert. Il faut quand même un minimum de représentation de la société dans une entreprise d'architecture. L'article se termine par un petit encadré très intéressant sur la situation dans les autres provinces du Canada. Les femmes architectes au Québec ont tardé, comparativement à celles des autres provinces du Canada, à s'intégrer à la profession, mais une fois entrées dans le milieu, elles ont pris leur place plus rapidement en participant à des projets d'envergure. En Ontario, par exemple, les femmes architectes n'étaient que 26,5% en 2017, selon les chiffres de l'Ontario Association of Architects. En Colombie-Britannique, elles formaient 19% des membres de l'Architectural Institute of British Columbia en 2016. Les premières femmes à se joindre à l'association professionnelle québécoise l'ont fait en 1942, alors que les autres Canadiennes ont rejoint les leurs en 1925. C'est amusant à quel point des débuts si pauvres ont mené à un résultat aussi sain, soutient la professeure Adams, rencontrée à son bureau de l'université McGill. La Révolution tranquille et l'Expo 67 ont fait une énorme différence dans la vie des femmes architectes au Québec, poursuit-elle, alors que l'habitation, la décoration intérieure et la conservation des monuments historiques étaient perçus comme les domaines de prédilection des femmes dans leur milieu. Les Québécoises ont, elles, œuvré à des méga-structures et à des projets d'envergure comme la Place Bonaventure, construite dans les années 60.
Il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais accrochons-nous et dans le milieu des architectes comme dans d'autres, continuons à vouloir bâtir un monde meilleur. Je préfère prévenir tout de suite si vous êtes en train de déjeuner, de boire un café, d'ingurgiter quelque chose, peut-être éloigner soit la nourriture, soit le poste, parce que l'article que j'ai est peu ragoûtant, comme on dit, mais ma foi, ça fait partie de la nature, ce n'est pas moi qui l'ai fait ainsi, et c'est amusant, je trouve, en tout cas intéressant. Comment s'échapper du gosier d'un crapaud ? C'est une situation peu commune pour nous autres humains, mais pour les coléoptères, c'est assez fréquent et ma foi, nous devons nous adresser aussi à cette audience, je crois. Fallait pas me manger. Les coléoptères bombardiers forcent les crapauds trop gourmands à les vomir en dégageant des produits corrosifs et brûlants dans leur tube digestif. Nous avons montré que le scarabée bombardier, je vous épargnerai le nom latin, rejetait des produits chimiques chauds à l'intérieur du crapaud, le forçant ainsi à vomir, explique Shinji Sugiura de l'université de Kobe, co-auteur de l'étude. Pour arriver à ces conclusions, deux chercheurs japonais ont étudié en laboratoire deux espèces de crapauds, les Buffo japonicus et les B. terenticola, friands de coléoptères bombardiers. Résultat, 43% des crapauds ont vomi les coléoptères, le tout dans un laps de temps allant de 12 à 107 minutes. De plus, tous les insectes vomis étaient vivants et actifs. Sur une vidéo des chercheurs, si vous voulez creuser le sujet, on peut voir le crapaud comme pris de haut de cœur, recracher l'insecte. Couvert de mucus, le coléoptère s'échappe alors rapidement. Selon les chercheurs, le jet toxique, composé de benzoquinone, de méthyle, de benzoquinone à nouveau apparemment, et de vapeur d'eau, atteint en moyenne les 100 degrés. Il est éjecté à partir de la pointe de l'abdomen de l'animal. Après que l'amphibien a avalé sa proie, une explosion était audible à l'intérieur de chaque crapaud, signe que le produit chimique avait été éjecté, racontent les chercheurs. Une technique de survie qui semble efficace, plus le coléoptère est gros et plus le crapaud est petit. Mais si les chercheurs ont découvert comment les coléoptères bombardiers parvenaient à s'échapper des tubes digestifs, une autre question reste ouverte. Comment peuvent-ils survivre aux acides qui y sont produits le temps qu'ils soient vomis ? Le taux de survie alors je vais écorcher le nom latin, mais je vais essayer de le prononcer, P. jessoensis, à l'intérieur des crapauds, était plus élevé que celui des autres coléoptères, ce qui suggère qu'il a peut-être développé une tolérance élevée pour les sucs digestifs des prédateurs, avance le chercheur. Si vous voulez approfondir le sujet, eh bien l'étude est publiée depuis mercredi dans la revue Biology Letters de la Royal Society.
Petite nouvelle, le chef de l'atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal, Eric Gonzalez, a remporté une médaille d'argent d'une compétition culinaire. Elle se déroulait en fin de semaine à Kelowna en Colombie-Britannique. Alors, M. Gonzalez avait été le vainqueur de l'édition montréalaise de cette compétition culinaire. Il représentait donc Montréal et le Québec à Kelowna. Le talent et la créativité du chef Gonzalez ont été mis au défi lors de 3 épreuves alors qu'il devait affronter 10 autres chefs canadiens. Il a obtenu la deuxième place derrière Alex Chen, un chef de Vancouver. Je suis très honoré et fier de revenir à la maison avec cette récompense, s'est exclamé Eric Gonzalez. La reconnaissance rejaillit sur la brigade et l'équipe de l'atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal, et j'en suis fort heureux.
Poursuivons sur la thématique, je suis désolé, mais bon, de l'estomac. Question à 100 000 dollars. Pourquoi le ventre gargouille-t-il lorsqu'on a faim ? La source de ces bruits est l'estomac et le petit intestin. Lorsque ces organes sont vides depuis quelque temps, un message est envoyé au cerveau : j'ai faim. On se met alors, même inconsciemment, à penser à la nourriture. Cette pensée génère à son tour une réaction du système digestif qui se met à se préparer à la digestion. L'estomac commence à produire de l'acide, les glandes digestives, foie, pancréas sont stimulées et les intestins se contractent pour vider ce qui reste en eux et faire de la place à l'arrivée de la nourriture. Normalement, toute cette activité ne s'entend pas dans un système digestif rempli. Lorsque celui-ci est vide, cependant, le gargouillis se rend à nos oreilles et même à celles de notre entourage. Et après toutes ces digestions, il faut se laver les dents. Quels étaient les ingrédients des premières pâtes dentifrice ? Les recettes de pâtes dentifrice composées de poudre de dattes, de terre et de miel ont été trouvées dans le papyrus Hébert datant de l'Égypte antique, 1600 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens utilisaient alors une pâte de cendre, de coquille, de broyer, de myrrhe et de feuilles de menthe ou de fleurs. Tant mieux, heureusement qu'il y avait les fleurs quand même à la fin. Ne bougez pas après une pause musicale, nous revenons avec encore plus de sujets. Promis, nous vous laisserons tranquille, vous pourrez déjeuner en paix, les sujets sont plutôt publics. A tout de suite.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hi.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
son album 25, c'était Adele et la pièce Hello.
Allez, on revient dans l'assiette, mais avec quelque chose de plus léger, promis. On va juste parler de la consommation de sel des Canadiens, avec un article de Valérie Boisclair paru dans Le Devoir du vendredi 19 janvier 2018. Alors, réduire la quantité de sel dans l'assiette des Canadiens prend plus de temps que prévu. Selon un récent rapport de Santé Canada, l'industrie alimentaire a échoué à atteindre des cibles suggérées en 2012, un constat jugé décevant par des organismes de la santé qui devront encore s'armer de patience. Selon le rapport du ministère, en 5 ans, seulement 14% de l'industrie a réussi à atteindre les cibles. La réduction du sodium dans les aliments transformés s'est avérée beaucoup plus faible qu'anticipée, admet Santé Canada. La teneur en sel a même augmenté dans certaines catégories d'aliments. Sur une base volontaire, l'industrie agroalimentaire avait été appelée en 2012 à apporter sa contribution à la réduction de la quantité de sel dans les aliments transformés, qui représente 77% de l'apport en sodium des Canadiens. Selon des données compilées en 2004 par Santé Canada, la consommation moyenne de sel s'élève à 3400 mg par jour, alors que normalement, on recommande de consommer un maximum de 1500 mg à 2300 mg de sel par jour. Le plan d'action du ministère, qui vise ultimement à remédier aux problèmes de santé publique qu'engendre une trop grande consommation de sel, prévoyait une réduction à 2300 mg en moyenne par jour d'ici la fin 2016, soit l'équivalent d'une cuillère à thé. Un excès de sodium peut conduire à l'hypertension, qui est un facteur de risque majeur pour les maladies du cœur, rappelle le docteur Alfred Aziz, chef de la division des règlements et des normes en nutrition pour Santé Canada. Près du quart des Canadiens ont reçu un diagnostic d'hypertension selon l'Agence de la santé publique du Canada. Le sodium est un nutriment un peu complexe parce qu'on en a tout de même besoin pour maintenir une bonne santé, explique le docteur Aziz. Consciente des habitudes de consommation et des goûts des Canadiens, l'industrie alimentaire ne pliera pas d'elle-même pour offrir des produits plus fades du jour au lendemain, s'entendent pour dire les organismes de santé. en donnant aux transformateurs une période de 5 ans pour atteindre les cibles, Santé Canada espérait que cette approche graduelle ne brusquerait pas les consommateurs. Plus on mange des aliments salés, plus notre seuil de détection s'élève. Ça nous prend encore plus de sel et de sodium pour y goûter, indique Madame Bernier. Si l'industrie avait respecté les cibles et avait progressivement diminué la teneur en sodium, le goût et l'appréciation de l'aliment auraient dû demeurer les mêmes au final, souligne-t-elle. La cible de 2300 mg semble réaliste et pourrait être atteinte si le ministère arrive à mettre en place toutes les mesures suggérées dans sa stratégie en matière de saine alimentation de 2017. Le docteur Aziz demeure confiant face à la stratégie adoptée par Santé Canada. Prenez l'exemple du Royaume-Uni. Ils étaient les premiers à mettre en place une stratégie basée sur la réduction volontaire. L'approche a porté ses fruits, mais elle avait son lot de défis, explique-t-il. Santé Canada propose entre autres d'apposer un symbole sur le devant des emballages des produits à forte teneur en sodium et d'imposer des restrictions aux publicités pour des boissons et aliments malsains destinés aux enfants. Or, ces initiatives font encore l'objet de discussions avec l'industrie. Ailleurs dans le monde, la Finlande est vue comme une figure de proue dans la lutte contre la réduction du sodium dans l'alimentation qui a débuté dans les années 80. Difficile donc de ne pas tracer de parallèle entre les initiatives proposées par Santé Canada et les mesures adoptées en Finlande, où le gouvernement a beaucoup misé sur la sensibilisation grâce à des campagnes médiatiques d'envergure, tout en imposant l'étiquetage obligatoire sur des alimentations à haute teneur en sel des aliments. Les organismes de la santé attendent pour leur part les résultats de données collectées en 2015 par Santé Canada, qui pourront donner une meilleure idée de la consommation en sodium des Canadiens à ce jour. Mais fort est à parier que les habitudes n'auront pas beaucoup changé. Pour la suite, Santé Canada doit rencontrer des représentants de l'industrie et des experts scientifiques afin de faire le point sur les piètres résultats des transformateurs. Les cibles volontaires demandées à l'industrie pourraient être modifiées en conséquence. Il y a encore du chemin à faire.
Oui, et pourtant la solution serait simple, enlever un peu de sel de l'assiette, en mettre un peu plus dans les rues, voilà. Parlons un peu de voyage et de rhum, mais ce n'est pas en Italie que je vous emmène, je vais faire écho à l'article sur l'absinthe de ma camarade, puisque c'est bien de la boisson, le rhum, dont nous allons parler. Des barils de rhum vieilliront autour du monde sur un grand voilier, voilà le titre de l'article. Une distillerie de la Nouvelle-Écosse envoie ses spiritueux dans un voyage autour du monde sur un grand voilier, promettant que le goût n'en sera que plus raffiné. 4 barils de rhum de la distillerie Ironworks de Lunenburg passeront les 15 prochains mois dans la cargaison du grand voilier à trois mâts Picton Castle. L'embarcation amarrée à Lunenburg est mieux connue pour ses voyages d'aventure et d'entraînement et il s'agira de son 7e et dernier tour du monde complet, a indiqué la copropriétaire de Ironworks, Lynn McKay. Les organisateurs ont décidé de souligner ce dernier tour du monde avec un rhum qui sera embouteillé à la destination finale du Round the World Rum en mai 2019. Le grand voilier devait amorcer son voyage à Lunenburg lundi, mais le départ a été repoussé à mardi ou mercredi, donc aujourd'hui ou demain. Madame McKay a assuré que le capitaine Daniel Morland conservait les spiritueux avec soin sous clé, bien évidemment. Mis à part le caractère séduisant de cette idée, il y a la théorie et la chimie qui soutiennent le fait que le rhum vieillit mieux en mer. Les mouvements de l'océan modifient la nature du processus de vieillissement, les mouvements du spiritueux dans le fût de chêne le rendent en fait plus complexe et intéressant à son retour sur la terre ferme, a-t-elle fait valoir. Cela fait partie de l'histoire du rhum. Au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque le rhum des Caraïbes était envoyé au Royaume-Uni et ailleurs, les gens remarquaient que le spiritueux était bien meilleur à la fin du voyage qu'au début. Certains rhums de Picton Castle ont déjà vieilli dans des fûts de chêne hongrois pendant quelques années. Nous prévoyons que celui-ci reviendra d'une certaine couleur mi-ambrée et nous ne jouerons pas du tout avec cette couleur, nous la voulons exactement comme elle nous arrivera, a indiqué Madame McKay. Rendez-vous donc dans un an pour goûter à ce rhum.
continue avec un sujet d'actualité. Ça se passe en ce moment même, ça a commencé hier et ça se termine demain, le 14 février. La plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord, Magic. Tous les mois de février et d'août, l'industrie du détail a rendez-vous à Las Vegas. Donc, c'est tiré d'un article publié par l'agence QMI de Philippe Orfali. Les dernières nouveautés en matière de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de fabrication sont représentées à des acheteurs potentiels, petits ou grands détaillants. On y retrouve vraiment de tout, des marques de luxe les plus exclusives aux dernières tendances en matière de fast fashion. Près de 4000 marques et plus de 60 000 personnes y participent. Et cette fois-ci, Montréal et le Québec sont déterminés à tirer leur épingle du jeu grâce à une délégation de près de 60 entreprises pilotées par M-Mode, la grappe industrielle qui regroupe les acteurs de l'industrie montréalaise de la mode. Créateurs, fabricants, distributeurs et détaillants du secteur de la mode profiteront de l'événement pour présenter leur collection automne-hiver 2018-2019, rencontrer des acheteurs clés et créer de nouvelles occasions d'affaires, explique la directrice générale de M-Mode, Debbie Zakeb. On veut faire du bruit et assurer une grande visibilité à Montréal lors du salon. On est une capitale nord-américaine de la mode et on veut développer davantage le marché des États-Unis, faire valoir nos compétences et notre savoir-faire. L'impact sera collectif. On veut vraiment mettre Montréal sur la map de la mode, lance même Dominique Anglade, vice-première ministre du Québec et ministre de l'économie qui sera présente à Vegas. L'industrie de la mode du Québec affiche des ventes de 7 milliards de dollars en biens manufacturés et en vente des grossistes distributeurs et compte plus de 1850 joueurs, incluant des fabricants, des détaillants, des grossistes, des distributeurs ainsi que des créateurs, selon M-Mode. Parmi ce bassin diversifié, on compte de plus en plus d'entreprises québécoises de classe mondiale. Montréal se classe même au troisième rang en Amérique du Nord pour la fabrication de vêtements, après Los Angeles et New York. Montréal regroupe quelques 10 000 emplois en fabrication de vêtements, le Québec en compte 15 000. Jean-Philippe Robert, président de l'entreprise spécialisée en confection de manteaux de duvet, en sera à sa deuxième participation à Magic. On est allé seul l'an dernier, on a eu de bons résultats, mais on pense que cette fois-ci, avec M-Mode, ça va nous donner une grande visibilité. Il souhaite repartir de Vegas avec de nouveaux contrats et de nouveaux clients. Magic est aussi l'occasion parfaite pour entretenir ses relations avec ses partenaires et clients actuels, dit-il. Mais l'industrie locale, sous sa forme moderne du moins, demeure méconnue et fait face à de nombreux défis, reconnaît Debbie Zakeb. On souhaite redonner ses lettres de noblesse à notre industrie. On doit en démontrer les succès. C'est sûr qu'à travers des décennies, il y a eu une délocalisation de la main-d'œuvre. On a dû s'ajuster, les structures d'affaires ont changé, les modes de distribution aussi. Notre concurrence est aujourd'hui mondiale et on doit y faire face, dit-elle. L'un des principaux défis de l'industrie demeure sa notoriété, reconnaît la ministre Anglade. Qui sait que 48% des emplois dans le secteur de la mode au Canada sont situés au Québec ? On a une force de frappe, mais on doit prouver ce dont on est capable. On a du travail.
Et comme nous sommes raccords, sans même nous consulter, c'est également à Las Vegas que je vous emmène pour un autre sujet, celui du mariage. Las Vegas, permis de mariage dès le retrait des bagages. Vous êtes pressé de vous unir ? Eh bien, pour la Saint-Valentin, il est possible d'obtenir un permis de mariage dès le carrousel de retrait des bagages de l'aéroport de Las Vegas, destination favorite des fans de mariage à la va-vite. Le comté de Clark, autorité qui gère les mariages à Las Vegas, a ouvert pour quelques jours un bureau éphémère de délivrance d'autorisation de mariage à l'aéroport international McCarran. Samedi, il a attiré un flux continu de couples. Je suis très contente qu'ils aient fait ça, parce que c'est beaucoup plus stressant d'arriver à l'aéroport, ensuite d'aller au bureau du comté, d'attendre, a expliqué Stéphanie, venue de Dallas, au Texas, pour épouser Keisha. Avec ce bureau pop-up, ça a été indolore et vraiment rapide, donc très pratique. Ce service délocalisé doit rester en place jusqu'au 17 février. Il délivre un permis de mariage pour seulement $77, qui est valable partout à Vegas, y compris à la Cannabis Chapel, à la Elvis Chapel, à la Chapel in the Clouds ou encore la Viva Las Vegas Wedding Chapel. L'industrie du mariage génère tout de même plus de 2 milliards de dollars par an à l'économie locale et le comté de Clark délivre environ 80 000 licences de mariage chaque année, plus que n'importe quel autre comté des États-Unis. Près de 1500 d'entre elles sont émises pour la Saint-Valentin. Cette année devrait en plus être particulièrement active, car la fête des amoureux tombe 2 jours seulement avant le Nouvel An chinois, qui coïncide avec le début d'une fin de semaine de 3 jours pour les Américains, une lune de miel de 3 jours.
Vous avez parlé de Saint-Valentin, c'est vrai, c'est demain déjà. On continue avec l'actualité parce que je vais parler des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang et toujours de ce qu'il y a dans l'assiette en termes d'alimentation, car les Sud-Coréens continuent à mettre du chien dans les assiettes malgré les Jeux Olympiques et les interdictions. Donc, c'est un article tiré du Huffington Post Québec. La viande de chien que les autorités sud-coréennes aimeraient interdire pendant la durée des Jeux Olympiques de Pyeongchang continue d'être servie dans les restaurants de la région, a reconnu un responsable mardi. Les autorités locales ont demandé aux 12 restaurants du comté de Pyeongchang servant du chien de ne plus faire figurer la viande rouge sur leur menu en échange de subventions, mais seuls 2 ont accepté, a indiqué l'AFP. À l'AFP, Lee Yong-bae, un responsable du gouvernement local. On a reçu beaucoup de plaintes de restaurateurs comme quoi cela menace leur gagne-pain, a-t-il expliqué. Certains d'entre eux ont remplacé le chien par du porc et ont vu leur vente s'écrouler. Les autorités de Corée du Sud essayent régulièrement de convaincre les restaurants de retirer la viande de leur menu pendant les grands événements internationaux. Le pays avait par exemple interdit les plats à base de viande de chien durant les JO d'été de Séoul en 1988 pour éviter toute publicité négative pouvant ternir ces Jeux olympiques. Même si la tradition a fortement décliné ces dernières années, les Sud-Coréens consommeraient toujours environ 1 million de chiens par an, la viande étant réputée pour avoir des vertus énergisantes.
Nous en sommes seulement au début de l'année encore, seulement en février, mais il s'est produit un événement il y a 2-3 semaines qui mériterait le prix de, allez on va être gentil, du plus étourdi de l'année, pour pas dire le plus idiot. Ça se passe au Pérou, pas loin de Lima. Un camion semi-remorque a fait fausse route, jusque là ça pourrait aller, mais a endommagé les célèbres lignes de Nazca tracées au Pérou il y a plus de 2000 ans, et représentant animaux et plantes, visibles uniquement du ciel, ont annoncé les autorités. Le véhicule est entré le 27 janvier sur ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité, en dépit des nombreux panneaux de signalisation en interdisant l'accès, endommageant la superficie de la plaine, dont 3 géoglyphes, a indiqué le ministère de la Culture. Les vigiles du site ont arrêté le contrevenant et ont porté plainte auprès de la police péruvienne, a ajouté le ministère. Le chauffard sera représenté à la justice, sera présenté. Le camion a laissé de profondes traces sur 100 mètres environ, selon le communiqué. Les lignes de Nazca, découvertes il y a un peu plus d'un demi-siècle dans le sud du Pérou, sont des figures géométriques représentant 70 animaux et plantes, visibles uniquement du ciel, ce qui a alimenté au fil des années l'une des plus grandes énigmes de la planète. Selon les archéologues, ces lignes qui s'étendent sur une zone de 750 km², tenez-vous bien, avaient une fonction cérémonielle pour les Nazca dont la civilisation s'étendait du désert aux Andes et à la forêt vierge. Protégées de l'érosion par l'absence de pluie et de vent, ces lignes représentent notamment un singe de 135 mètres d'envergure, la queue en spirale, une araignée de 46 mètres de long, un colibri 66 mètres d'une aile à l'autre, ainsi qu'un oiseau géant long de 300 mètres et large de 54. Certains d'entre eux sont malheureusement abîmés à cause de cet étourdi.
Alors, on a parlé d'espèces un peu étranges, on continue. Alors, quelle est la plus increvable des créatures ? Un animal minuscule, le tardigrade, cette créature de 0,5 mm de long, résiste littéralement à tout. Température extrême, UV, rayon X, l'ourson d'eau est même la seule bestiole connue capable de résister aux conditions du vide spatial. Pas d'eau pendant 30 ans, pas de problème, il sécrète une protéine qui lui permet de se protéger de la dessiccation. Encore plus fort, le tardigrade est capable de survivre à la collision entre un astéroïde géant et la Terre. Des chercheurs de Harvard et Oxford ont montré que pour venir à bout de cette créature, il faudrait un événement cosmique capable de provoquer une ébullition des océans. Or, la probabilité que l'un de ces phénomènes se produise est négligeable.
Et si ce petit organisme résiste à tout, nous, humains, méfions-nous, parce que nous pouvons parfois être de petite nature. Retenir un éternuement peut être dangereux, voilà le titre de mon article. Au plus fort de la saison de la grippe, des otorhino-laryngologistes et tout, les chercheurs préviennent qu'il est potentiellement dangereux d'étouffer nos éternuements, une pratique qui peut parfois provoquer des blessures. Un cas particulièrement frappant est mentionné lundi dans l'édition en ligne du journal médical BMJ Case Report. Un Britannique de 34 ans s'est infligé de graves blessures à la gorge quand il s'est bouché le nez et la bouche pour tenter d'étouffer un éternuement particulièrement vigoureux. Souffrant, l'homme était ensuite pratiquement incapable de parler ou de manger. Les médecins qui l'ont examiné ont entendu de petits sons de son cou jusqu'à sa cage thoracique, un signe que de petites bulles d'air s'étaient infiltrées dans les tissus et les muscles de sa poitrine, écrivent les médecins des hôpitaux universitaires de Leicester. Le patient, non identifié, a été hospitalisé pendant une semaine, tenez-vous bien, simplement pour un éternuement. On lui a ensuite déconseillé de reproduire cette manœuvre dangereuse à l'avenir. « Cette déchirure de la gorge est incroyablement inhabituelle », a dit le docteur Douglas Klepefa, un otorhino-laryngologiste. Otorhino-laryngologiste, voilà, on y est, du réseau de santé universitaire de Toronto. Je n'ai jamais rien vu de tel pendant toute ma carrière. Il prévient toutefois que le fait d'étouffer un éternuement peut provoquer d'autres blessures aussi rares. Bloquer l'expulsion de l'air par le nez et la bouche pourrait faire rapidement augmenter la pression dans les poumons, emprisonnant l'air dans la poitrine entre les poumons, un problème appelé pneumomédiastin. Un éternuement étouffé pourrait aussi augmenter la pression de l'air dans l'oreille interne, mais le docteur Shepea dit qu'une rupture du tympan serait plutôt rare. Les auteurs de l'article du BMJ préviennent qu'un éternuement étouffé pourrait potentiellement provoquer la rupture d'un anévrisme inconnu au niveau du cerveau. Le corps éternue pour se débarrasser d'irritants comme du mucus ou des allergènes dans le nez, mais ne le bloquez pas. L'augmentation de la pression pourrait causer une rupture des petits vaisseaux sanguins superficiels des yeux, de la tête et du cou, selon le docteur. Un vaisseau sanguin pourrait se briser dans le nez et provoquer un saignement, a-t-il dit. Même un éternuement normal est potentiellement dangereux, prévient le docteur Eric Montero. On a entendu parler de femmes âgées atteintes d'ostéoporose qui ont subi des fractures par tassement des vertèbres en éternuant, a-t-il dit. Il y a même un joueur des Blue Jays de Toronto, J. Kevin Pillar, qui s'est retrouvé sur la liste des blessés pendant 10 jours en 2015 quand il s'est étiré un muscle en éternuant. Y a-t-il donc une bonne façon d'éternuer ? Pas vraiment, selon le docteur Montero, qui explique qu'un éternuement est un réflexe involontaire qui ne peut pas nécessairement être contrôlé. Mais je pense qu'il y a une mauvaise façon en bouchant votre nez et votre bouche, ce qui n'est habituellement pas recommandé puisque vous interférez avec le processus naturel. Et en faisant ça, on peut s'exposer à une blessure, même si elles sont rares. Un éternuement devrait être envoyé dans le creux du coude pour empêcher les virus de se propager. ce qui conclut cette émission, le temps pour moi de remercier ma camarade Yolaine Torres. Remerciements également à notre compère de l'autre côté de la vitre, Monsieur Jean-Sébastien Liberté, pour la mise en onde et les choix musicaux. Restez sur Canal M tout de suite après Hélène Denis avec les paractualités. Nous nous retrouvons dans une semaine, mardi prochain, même heure comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien.